Bonsoir à toutes et à tous. Depuis notre dernière séance, on vient de vivre des jours, des journées assez graves, des événements qui sont produits, une sorte de séisme qui fonctionne un peu comme révélateur de ce qui se passe dans les profondeurs de la société française, mais aussi évidemment dans d'autres société autour de la Méditerranée. Et je me suis dit, finalement, toutes les grandes questions que nous avons touchées dans ce cours, et notamment la question de la violence, ont été vraiment très, 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 très présentes pendant ces jours-ci. Et du coup, la question pour nous chrétiens, la question du salut, se pose aussi, je dirais, d'une manière un peu nouvelle et avec une radicalité, une urgence tout à fait décisive. Alors le dernier chapitre de cette deuxième partie, vous pouvez peut-être l'entendre un peu avec cet arrière-plan de ce que je viens de dire très 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 rapidement, sans entrer dans un café de commerce et de faire des analyses, c'est peut-être encore trop tôt d'ailleurs. Mais je pense que vous pourrez entendre un peu ce chapitre sous cet angle-là. Finalement, dans une situation comme celle-ci, que dire finalement de l'expérience, je dirais, du salut? Donc ce chapitre, le dernier chapitre que nous avons déjà entamé, il a une fonction un peu récapitulative et je dirais c'est quand même un chapitre central dans tout le parcours que je vous ai proposé. Il nous reste ensuite une dernière séance la prochaine fois. Alors, je rappelle un peu le titre, notamment le sous-titre « Accueillir ». Donc, le salut, c'est quelque chose qu'on accueillit, donc à la page 106. C'est tout à fait central comme posture initiale, hein, aussi par rapport à nos existences humaines. Et alors, il s'agit d'une expérience. Et ce sera évidemment le deuxième point, accéder à la source de vie à la page 107, qui tente de reprendre cette expérience, l'expérience du salut, mais non pas d'une manière abstraite, mais dans le jeu multiforme de la communication humaine, traversé par la violence. Et ça, c'est donc le point 3 de ce dernier chapitre, l'expérience du salut dans le jeu multiforme de la communication humaine. Donc voilà ce que je pense un peu d'abord développer aujourd'hui, et ensuite on va déjà rapidement entamer la dernière partie du cours, qui de toute façon sera beaucoup plus brève. Donc au point de départ, si on va à la page 106, il y a ce que nous avons peut-être compris du statut énigmatique, finalement, de l'être humain, selon cette affirmation que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et cette affirmation qui, peut-être dans la théologie patristique médiévale et moderne, pouvait avoir un caractère relativement simple, si je puis dire, est devenu aujourd'hui infiniment plus complexe. Simple, pourquoi ? Parce que entre l'écriture et donc l'anthropologie biblique d'un côté et l'anthropologie philosophique, il y avait ce couple corps-âme qui nous servait d'une certaine manière comme passage d'une vision anthropologique d'un point de vue philosophique vers une anthropologie proprement théologique. Et au fond, très très rapidement, la tradition chrétienne avait développé, je dirais, dans l'Empire romain et déployé ensuite, quasiment à partir du IIe siècle, ce qu'on peut appeler aujourd'hui une poétique du sens, qui est devenue la poétique du sens dans l'Occident. Et vous trouvez encore des éléments dans le dernier texte du synode des évêques. Un axe temporel, vous voyez, l'idée de restauration d'une origine, la restauration d'une origine, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, par de là la corruption du corporel par le péché, et une vision et une visée eschatologique. Donc, vous voyez cette grande vision de l'économie du salut, et qui se concentre très concrètement dans un style de vie ou des styles de vie très très codés qu'on appelle les états de vie, le mariage plutôt tourné vers l'origine et la vie comme eunuque, comme dit Jésus pour le royaume, Matthieu 19, plutôt dans une orientation eschatologique, orientée vers ce monde de la fraternité christique, du ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Voilà, si vous voulez, je dirais un peu l'anthropologie classique, et encore il y a 40 ans, on aurait pu faire un cours simplement autour de cela. Alors nous avons pris conscience, je dirais à la fois la disparition de cette distinction corps-âme, jusque dans les sciences cognitives aujourd'hui, au profit d'une anthropologie complexe de la corporéité, et évidemment les dialectiques depuis Hegel, Marx, Fessard, les célèbres dialectiques nous permettent de comprendre un peu quelque chose à la violence humaine. Et du coup la question, et c'est celle qui est du quatrième chapitre, sur quoi greffer d'une certaine manière maintenant l'option fondamentale chrétienne, qui apparaît aujourd'hui, je dirais presque à nu, avec toute son essentialité, si je puis dire, sa concentration, une option fondamentale chrétienne, et d'où découlent évidemment, je dirais, des styles de vie complexes qui se réinventent aujourd'hui. Donc cette option fondamentale, on va y revenir dans quelques instants, à la fois le caractère radicalement pulsionnel de la vie. Nous faisons partie de cette grande évolution de la biosphère dont nous sommes des exemplaires d'un côté, et en même temps ce paradoxe, la vie produit de l'unique. Et c'est au fond, la vie humaine se situe dans cet écart paradoxal que j'ai développé dans le chapitre précédent. Alors, ce qui est difficile aujourd'hui, pas seulement en Europe, mais aussi dans d'autres cultures, je vous propose la formulation, comment l'anthropologie chrétienne peut-elle s'inscrire, donc à partir de cette option fondamentale, dans les dialectiques et plus fondamentalement dans celle de l'homme et de la femme, et constituer dans ce cadre sa propre poétique du sens, entre les multiples formules d'association humaine et les visions de l'homme non moins diversifiées qui cohabitent dans nos sociétés. Voilà, le pluriel, difficile à vivre comme nous l'avons constaté encore ces derniers jours. Alors, j'arrive tout de suite à partir de ce moment-là au point numéro 2. Donc, nous partons finalement du centre même de la foi chrétienne, qui est l'expérience de la rédemption, et qu'on peut centrer, si vous voulez, je dirais, dans des formules extrêmement simples de l'Épître aux Galates, qui a l'art de résumer les choses, l'expérience baptismale. Nous allons partir de cela, et à partir de cette expérience fondamentale, notre regard va progressivement s'élargir et revenir, donc à partir du Nouveau Testament, l'Épître aux Galates, l'Épître aux Romains, vers la Genèse, vers cette affirmation, cette formule, l'homme créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire aujourd'hui? Donc il s'agit de faire le chemin qui conduit de l'Épître aux Galates à l'affirmation de la Genèse. Et j'ai déjà développé la dernière fois la première étape, si vous voulez, de cette expérience. Au fond, il s'agit d'une seule et unique expérience, mais qui se précise au fur et à mesure qu'on va un peu dans les profondeurs des choses. Donc la première étape, où se situe finalement la référence religieuse à la transcendance qu'un Frankl a appelé le Dieu inconscient, dans l'écart, je répète ce que je viens de dire, entre la dynamique pulsionnelle de la vie et cette promesse qui s'inscrit là et qui est la singularité vivante que nous rencontrons concrètement. Donc avec la question, est-ce que la vie tient la promesse qui est inscrite en elle? C'est là où se loge, où on peut faire apparaître, voyez, loge, c'est une manière de formuler les choses plus activement, faire apparaître, c'est une manière plus passive de dire les choses, de découvrir l'aspiration infinie d'un dépassement du cycle vie et mort. Ce que j'ai appelé donc le spirituel, la béance, qui est au cœur de la vie, qui ne se surajoute pas de l'extérieur, mais qui est déjà au cœur même de la vie et de la corporéité. Et donc on peut greffer, si vous voulez, sur cette donnée de base, la formule fondamentale de Galates, 26, 27, 28, « Car tous vous êtes par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ, oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a désormais plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car vous ne faites qu'un en Jésus-Christ. » Voilà cette magnifique formule qui résume donc en peu de mots notre expérience chrétienne. Et donc qui implique, si vous voulez, je dirais quelque chose de très radical que le baptême symbolise et réalise réellement, c'est-à-dire la reconnaissance de la nudité de l'être humain. Il en est question de la Genèse. La nudité, c'est-à-dire sa fragilité, sa finitude, son caractère radicalement vulnérable et exposé de notre corps, et la réception d'un vêtement nouveau, revêtir le Christ. Revêtir le Christ. Donc en termes bibliques, voilà de quoi il s'agit. Et donc l'enjeu est évidemment pour notre expérience de retraduire la formule biblique, les mots bibliques, la symbolique biblique en termes anthropologiques. Et donc c'est la foi, ce que nous appelons foi au sens le plus élémentaire du terme, confiance, la foi élémentaire, qui se situe dans cette béance fondamentale de la vie entre son caractère pulsionnel, circulaire, mort, vie, mort, etc., et l'apparition de la singularité. Au sein même de la corporéité humaine, à l'endroit où l'être humain se singularise. Et cette référence, cette relation, foi, indique du côté anthropologique le dépassement et l'accomplissement du cycle vie-mort et explicite notre aspiration qui est au cœur même de la vie à l'immortalité. Et donc on peut dire, vivre l'expérience baptismale, c'est donner corps concrètement, d'une manière singulière et collectivement, parce qu'on est en Église, on le va voir tout de suite, et donner corps au Dieu inconscient dont parle Frankl. Donc, explicitation de ce désir, le prendre corps grâce à ce vêtement nouveau qui entoure la nudité de nos corps. Et en langage joannique, avec cette inversion extraordinaire, on n'est plus dans une perspective uniquement anthropologique, il s'agit de naître de Dieu. Non pas seulement naître du sang, de la volonté de l'homme, mais de naître de Dieu. Et j'ajoute ici quelque chose de tout à fait décisif, c'est-à-dire, et c'est là où il s'agit vraiment d'un accueillir, il s'agit de l'absolue gratuité de cette expérience, qui est non pas de l'ordre de la construction, même si mes formules peuvent y ressembler un peu. Bien sûr, il y a des options que chacun de nous prend dans son existence, mais il s'agit de la réception, d'une gratuité donnée. Recevoir la vie dans son caractère paradoxal comme don donné à moi et à nous. Alors, sur cette option fondamentale, se greffe tout de suite évidemment la question. On y a peu accès directement, sauf dans, évidemment dans la célébration et dans l'expérience spirituelle quotidienne. On a accès à cette expérience baptismale au jour le jour qui s'affirme, qui se confirme, confirmation, etc. Mais cette expérience s'inscrit évidemment dans nos styles de vie, dans nos existences. Et c'est là où apparaît tout de suite la deuxième étape. Donner sens, cette expérience donne sens à la dialectique homme-femme. Donc, il n'y a ni homme ni femme. Et j'ai immédiatement ajouté la dernière fois, c'est précisément pour cette raison qu'ils resteront homme-femme d'une certaine manière et d'une manière nouvelle. D'une certaine manière, j'ajoute d'une manière nouvelle, dans le corps du Christ, le devenir corps du Dieu inconscient. Alors, la formule, d'une certaine manière, indique donc déjà tout, le tout de l'itinéraire de conversion qui est en jeu ici à partir du don baptismal reçu. Parce qu'il s'agit de traverser donc notre corporéité humaine et cette béance qui s'ouvre en nous dans sa structure à la fois pulsionnelle et unique et de vivre dès maintenant de l'immortalité, de la résurrection, des arts de la résurrection. Alors ceci se fait d'après la deuxième lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, le chapitre 7. J'espère que vous avez pu lire, un peu méditer ce texte qui n'est pas aisé évidemment à comprendre, selon une certaine logique où on peut retenir, si vous voulez, deux termes ou deux pôles, à la fois le selon la condition, et qui est extrêmement important, nous allons retrouver ça un tout petit peu plus loin quand nous allons parler de l'homosexualité. La condition, c'est ce texte-là qui nous permet théologiquement d'aborder aussi cette question-là. La condition. Selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage et dans laquelle il se trouvait quand Dieu l'a appelé. Et donc l'expérience baptismale nous dit que le temps est écourté. Le temps est écourté. Évidemment, je n'ai qu'une seule vie, chacun de nous peut dire ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un bip sur l'énorme cadran de la biosphère, n'est-ce pas? À peine, voilà. Donc c'est court, une petite explosion, et voilà. Donc le temps est écourté. Et du coup, désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Voilà la formule « comme sinon ». Et ça, c'est absolument remarquable. Il faut évidemment bien le comprendre. Ça veut dire dans la condition qu'il y a la mienne. Je suis homme, un tel, une telle est femme, un tel est homosexuel, etc. Cette condition n'a rien d'absolu, rien d'absolu. Comme sinon, c'est la condition, rien de destinal, ce n'est pas un destin. Donc l'appel se greffe là-dessus, précisément la vocation, l'appel baptismal, et produit donc un comme sinon, à la fois un prendre radicalement au sérieux ce que je suis, la condition, et en même temps un relativisé, eschatologique. Donc, ces deux formules produisent un rapport interne à la condition corporelle de l'homme qui se transforme alors désormais en toutes ses relations Et je reprends ici, j'ai une formule de Giorgio Agamben, un philosophe italien, qui a fait ce petit livre « Le temps qui reste », qu'on peut bien discuter sur beaucoup de points, mais ce point-là, il l'a, à mon avis, très 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 bien compris. Il ne s'agit pas d'indifférence eschatologique. Peu importe que tu sois ceci ou cela, non. Non, 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 je suis celui ou celle-là ou etc., etc. Donc la condition est très prise au sérieux. Il ne s'agit pas d'indifférence eschatologique, mais au contraire de la mutation, voire du déplacement intime, de toute condition mondaine spécifique, dans la mesure où celle-ci est désormais appelée, intégrée dans l'expérience baptismale dont je viens de parler. Le temps est écourté, voilà, l'acte de foi. Au cœur de la béance de la vie. Cette mutation, voyez, je vais en dire maintenant deux choses, et finalement une troisième, mais deux choses d'abord. Cette mutation, cette conversion baptismale, elle est déjà, je le souligne le déjà, inscrite dans le double scénario de la dialectique de l'homme et de la femme. C'est pour ça qu'elle est si décisive. Il y a déjà dans cette dialectique une conversion. La lutte amoureuse convertit le désir, qui devient désir de l'autre comme sujet, le désir de l'autre, lutte qui peut alors aboutir, évidemment en passant par un risque mortel, que l'autre ne veut pas de moi, ou s'oppose à moi, et etc., à l'aveu, et du coup peut s'inaugurer ensuite ce que j'ai appelé, avec Fessard et Pousset, la phase générative du travail d'enfantement, encore une fois qui peut prendre des formes extrêmement diverses, la génération, la créativité, l'engendrement de la vie. Donc voyez, là, il y a déjà une conversion ici, au cœur même, je dirais, de cette dialectique homme-femme. Alors le seuil, maintenant, deuxième remarque, le seuil du passage chrétien vers l'expérience baptismale, c'est la découverte surprenante, ça c'est la formulation anthropologique, la formulation théologique, théologale, proprement théologale, que la relation, voire le lien, est première, voire absolument primordiale. Et là, il y a l'inversion, la conversion chrétienne qui intervient ici. La relation est primordiale. Alors, quand on accompagne, je relate un peu cette expérience-là, des fiancés, etc., on se rend vite compte de cela ici. De ce point tout à fait essentiel. C'est la mutation baptismale. Alors j'explique un peu. Donc la lutte amoureuse et le travail d'enfantement donnent d'abord l'impression que la relation est toujours un produit contractuel. Et cela, elle est un produit contractuel. Évidemment, la relation. Il y a le moi et l'autre moi, le tu, et qui entre en relation. Voilà, le mot contractuel dit cela. Nous voulons, voilà, bien sûr. Des deux êtres qui ont existé avant de se rencontrer, qui sont déjà personnalisés par la famille ou ses substituts, et par l'éducation et l'entrée dans une culture donnée, etc., etc. Mais, et voilà, l'aveu et l'avancée dans la relation peuvent conduire, à travers la relecture commune du passé, et la rencontre de deux mémoires, la mémoire de l'autre et la mienne, vers la découverte toujours plus profonde que leur relation a précédé en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, leur rencontre effective. Elle a été sans doute le fruit d'un effort, mais elle est plus encore l'effet d'un événement. Oui, la formule tombée amoureuse, voilà, tombée. Donc, un événement, vous voyez. Donc, quelque chose se passe, et vous voyez, qui n'est pas uniquement la somme de deux, un plus un. Voilà. Un événement se produit. Et il y a la relation elle-même, un tiers qui émerge ici avec toute sa force. C'est-à-dire ce qui est donné et accueilli, et non pas seulement choisi. Donné et accueilli, et en même temps, évidemment, choisi. J'ai dit encore une fois, comme si cette relation avait existé depuis toute éternité. Ah oui, ça c'est la formule de Jérémie. Depuis le sein de ma mère, tu m'as appelé. C'est la formule de Paul, depuis le sein de ma mère. Vous voyez, ça c'est la fonction de la mémoire, c'est-à-dire à partir d'un événement tellement décisif, évidemment ça suppose que je n'ai qu'une seule vie, et que j'en suis bien conscient de ça. Si je pars de l'hypothèse, de toute façon j'en ai plusieurs vies, alors je peux tomber plusieurs fois, pour parler comme ça, et etc. Et il y a les successions, etc. Tout ce que je viens de dire tombe à ce moment-là. Je ne suis plus au niveau de l'expérience baptismale. Donc il y a un tiers, une relation ici qui apparaît. Et du coup surgit la question, qui est ce tiers? Qui n'est pas un troisième? Voyez, qui est ce tiers qui n'est pas un troisième? Il les a créés, et maintenant concrètement, un tel et une telle, homme et femme, à son image et à sa ressemblance. Voilà. C'est là, à cet endroit-là, qu'on peut tout d'un coup comprendre cette formule initiale. Cette formule initiale. Il les a créés, homme et femme. Ce mystère est grand. Moi, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. Donc, vous voyez, la relation. Mais ça suppose évidemment ce passage qui est préparé par un déjà et qui est déjà présent dans la dialectique de l'homme et de la femme, évidemment. Cette primauté du lien comme lieu de la conversion au cœur même de la figure paradoxale, je reviens de notre corporéité humaine, est symbolisé, et c'est là où je prends mes distances fortes par rapport à presque 2000 ans de l'histoire, non pas par un des états de vie, mais par les deux états de vie, et après dans le troisième point je vais rajouter évidemment d'autres éléments encore très importants. Par la polarité qui ne se laisse plus aujourd'hui distribuer, si vous voulez, entre l'apport à l'origine, ce serait le mariage, bon, le retour à la création, et du rapport à la fin de l'autre. Parce que dans les deux joue la dialectique de l'homme et de la femme, et évidemment, et dans les deux, il s'agit de l'eschatologie, des arts de la résurrection dans cette expérience baptismale. Alors d'un côté, j'explique un peu, la primauté du lien s'exprime très rapidement, parce que là il faudrait du long temps évidemment pour expliciter ça. S'exprime, la primauté du lien s'exprime, et c'est ça son fondement, dans l'appel, non pas dans la loi chez Jésus, dans l'appel à l'indissolubilité. J'en ai déjà parlé, je vous renvoie donc à la page 100, le point 3, le rapport à l'autre. Ils correspondent parfaitement, vous voyez, cet appel à l'indissolubilité et la primauté du lien correspond parfaitement à la vision judéo-chrétienne de la corporéité, au désir de l'éternité, non pas d'abord du « je », mais du sujet en relation. C'est la relation qui est promise à la résurrection. La relation. Du sujet en relation et au fait que nous n'avons qu'une seule vie, évidemment si je conteste cela d'emblée ou si ça ne revient pas à ma conscience, le temps s'est écourté et je fais comme si j'avais plusieurs, alors la question ne peut pas se poser de cette manière-là. Voilà, c'est cette condition eschatologique, je n'ai qu'une seule vie, qui est la condition qui rend possible du définitif. Du définitif, Dieu s'est révélé lui-même et il ne peut pas se révéler plus que ça, une fois pour toutes. Voilà. Cette primauté du lien est évidemment menacée par l'usure du temps et par l'inexorable extinction de la jouissance des corps et de leurs désirs. Et voyez, se présente là l'enjeu d'une conversion à la fois profonde et difficile. Pour ça, le retour à l'expérience baptismale, où il s'agit de creuser toujours plus profond pour puiser à la source baptismale, c'est-à-dire dans la primauté du lien. Oui ou non, est-ce que le lien est là, primauté? C'est donc une conversion corporelle d'une présence transformée de l'autre, d'une ouverture tendre et amicale vers les autres, souvent beaucoup d'autres. Et j'ai envie de dire qu'en ce lieu de conversion, les mariés rejoignent quelque chose de ce qui est vécu par les célibataires du royaume. C'est au moins ça que j'entends souvent. Quelque chose. Alors, de leur côté, les célibataires pour le royaume signifient la conversion de la sexualité humaine en lien, en relation toujours plus ouverte et plus universelle. Je ne suis pas célibataire pour moi-même. De ce point de vue-là, la condition, je dirais, relationnelle est la même. Il signifie le ni-ni dans le corps du Christ, oui. Mais il signifie donc d'emblée la primauté du lien christique, d'emblée, qui tient les hommes ensemble. Mais attention, cette symbolisation spécifique ne retire pas les célibataires du royaume, pour le royaume, de la dialectique homme-femme et des réseaux humains qui nous réservent toujours des surprises. Heureusement. Heureusement. Voilà. Le célibat risque de rester stérile si les époux ne rappellent pas aux célibataires pour le royaume le caractère infiniment concret de l'amour. L'amour est toujours concret, toujours concret. Il risque sinon de rester stérile. Caractère concret de l'amour est l'appel à la fécondité toute spécifique qui est promise au travail en commun et aux relations entre célibataires, s'ils sont en communauté ou non, peu importe, et les mariés, voilà. Donc là s'ouvre un champ énorme d'une phénoménologie parce que, évidemment, depuis Vatican II, nos états de vie ont totalement muté. Il vaut mieux le reconnaître. Voilà, il vaut mieux le reconnaître. Alors maintenant, un complément, très important. Le texte de 1 Corinthiens 7 nous permet aussi d'intégrer de manière nouvelle les relations entre homosexuels, selon la condition que le Seigneur, lui, leur a donnée en partage. Voyez, je m'inscris ici avec toute fermeté qui est possible contre la vision anthropologique d'un normal et d'un anormal, que vous trouvez encore dans les paragraphes correspondants du catéchisme de l'Église universelle. C'est inaudible et ça risque d'être injuste. Voilà. Donc ce point est tout à fait essentiel. Les relations entre homosexuels dans une symbolisation positive. Et ce travail est encore évidemment devant nous. Voilà. Car le ni-ni, le comme-sinon, et la concentration du temps eschatologique ne nous permet pas d'absolutiser la différence homme et femme. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui la question à partir d'une soi-disant loi naturelle, il faut l'aborder d'une manière eschatologique. Et nous avons tous les moyens, c'est ça la bifurcation d'un point de vue théologique. Alors, le seul texte que le pape François cite des évêques français, Voyez, il y a une nouveauté dans Evangelii Gaudium. C'est-à-dire, Evangelii Gaudium cite beaucoup de textes des conférences épiscopales. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Hein? Et le seul texte des évêques français, c'est ce texte que je vous donnais ici, la note du Conseil Famille et Société de l'Épiscopat français, sur élargir le mariage aux personnes de même sexe, point d'interrogation. Voyez la date, 28 septembre 2012. Voilà. Que la Commission sur la famille n'a pas voté à l'unanimité. Le texte a été accusé à Rome et a eu quelques problèmes. Donc il a été passé sous silence pendant les moments les plus chauds des débats, malheureusement, parce que c'est un texte remarquable. Et c'est le pape François qui l'a sorti des tiroirs. Voilà. Alors, je vous donne les trois thèmes essentiels, les points avec des citations. Parce que c'est une marque sur un chemin que nous avons encore devant nous, il faut bien le reconnaître. Premièrement, ce n'est pas parce que l'Église accorde un statut particulier à cette relation d'amour entre un homme et une femme qu'elle n'accorde pas de valeur à d'autres relations d'amour ou d'amitié. Mais celle-ci ouvre sur un autre type de fécondité, une fécondité sociale. Cela n'est pas moins important aux yeux de l'Église. Mais seul dans le cas de l'amour d'un homme et d'une femme, cette ouverture à l'autre se traduit par la naissance d'une vie nouvelle. Deuxièmement, très important, si le respect de la personne est donc clairement affirmé, il faut bien admettre que l'homophobie n'a pas pour autant disparu dans nos sociétés. Les préjugés ont la vie dure et les mentalités ne changent que lentement, y compris dans nos communautés et familles catholiques. Elles sont pourtant appelées à être à la pointe de l'accueil de toute personne, quel que soit son parcours, comme enfant de Dieu, comme enfant de Dieu. Le refus de l'homophobie et l'accueil des personnes homosexuelles telles qu'elles sont font partie des conditions nécessaires pour pouvoir sortir des réactions épidermiques et entrer dans un débat serein autour de la demande des personnes homosexuelles. Troisièmement, la société, tout comme l'Église, dans le domaine qui lui est propre. Vous rappelez ma petite théologie politique sur les possibilités de l'État, etc., dans le chapitre 2 de cette partie, entend cette demande de la part des personnes homosexuelles et peut chercher une réponse, tout en affirmant l'importance de l'altérité sexuelle et le fait que les partenaires homosexuels se différencient des couples hétérosexuels par l'impossibilité de procréer naturellement, nous pouvons estimer le désir d'un engagement à la fidélité d'une affection à la fidélité d'une affection, voyez le lien, d'un attachement sincère, du souci de l'autre et d'une solidarité qui dépasse la réduction de la relation homosexuelle à un simple engagement érotique. Mais cette estime ne permet pas de faire l'impasse sur les différences. Donc voyez, il me semble que 2 Corinthiens 7, qui était pour moi la clé, et vraiment pour, comme une sorte de révélation dans le débat, avec évidemment Galates, le texte de Galates, permet de relativiser les autres textes de Paul sur l'homosexualité, notamment dans l'épître aux Romains, qu'il faut resituer, André Paul nous le montre aussi, dans un contexte précis, historique. Finalement, au cœur de cette conversion baptismale, de la sexualité humaine, les sentiers du mariage et du célibat, aussi du célibat consacré, ainsi que des autres, je cite le texte des évêques, des autres relations d'amour ou d'amitié, se rejoignent sur les chemins de crête de l'amour. Ça, c'est les chemins que chacun de nous, quelle que soit la condition, sa condition, doit de toute façon être appelé à arpenter. Là où il n'y a plus homme et femme, et où leur différence et leur relation est pourtant maintenue et rendue féconde dans le corps même du Christ. Voilà, donc ça c'était pour moi un point tout à fait essentiel de vous communiquer un peu ma réflexion sur cette question. J'en viens maintenant à la troisième étape, parce que nous n'avons pas fini, évidemment, avec cette expérience. Donc vient maintenant, si vous voulez, évidemment, l'autre dialectique, celle du maître et de l'esclave. Et donc la question de la violence, qui reste évidemment présente jusqu'au cœur de l'expérience baptismale à travers le péché. La dialectique de l'homme et de la femme est au moins idéalement l'inversion de la dialectique du maître et de l'esclave. Je dis idéalement, idéalement. Parce que dans cette dernière, celle du maître et d'esclave, il y a d'emblée dissociation. Et ça, c'est le propre de la violence, la dissociation. C'est pour ça que nous étions tellement émus, je pense, hier, même si c'est une fulgurance d'un moment. Voilà. Mais voilà. C'est un peu la dialectique de l'homme et de la femme. Je vous laisse chercher l'application à la République, autour, voilà, etc. C'est un peu ça, quand même. Voilà. Et la dissociation, la violence, voilà. La double dissociation, la violence entre l'homme et l'homme, et la dissociation, la violence entre l'homme et la nature, évidemment. Voilà. Dans la dialectique homme-femme, alors oui, j'ai oublié de dire ça, le point essentiel, c'est que évidemment, quand le père Fessard reprend toutes ces questions et le père Pousset, ils ne sont pas conscients du tout du problème écologique, et donc de la violence qu'implique l'humanisation de la nature. L'humanisation de la nature. Donc une sorte de violence cachée. Dans la dialectique homme-femme, il y a coïncidence immédiate, naturelle et nécessaire du double rapport constitutif en la réalité humaine. L'association du corporel et du relationnel. Du corporel et du relationnel. Et cette inversion se repère parfaitement dans les deux temps du scénario de la dialectique. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Alors intervient ici comme nouveau point, si vous voulez, en distance par rapport à toute cette époque qui va jusqu'à Vatican II et même après, c'est-à-dire le rapport de l'humanité à la nature. Nous devons nous comprendre comme bergers du globe. Et ça, c'est déjà la thèse de la Genèse. Le dominer, dans le premier récit de la Genèse, je vous l'avais dit, à la manière du berger du globe. Et il faut maintenant étendre analogiquement ce que je disais tout à l'heure d'un point de vue eschatologique de l'existence humaine. Nous n'avons qu'une seule existence, mais nous n'avons qu'un seul globe. Nous n'avons qu'un seul globe. Et c'est peut-être ça, cette prise de conscience que l'humanité est en train de faire, parce qu'elle a fait le tour un certain nombre de fois, elle a essayé de découvrir d'autres globes, etc., habités, et elle est continuellement ramenée à cette expérience. Nous n'avons qu'un seul globe. Il s'agit donc de maintenir ce globe habitable, pour les générations futures, et voyez, j'ai introduit ici une petite formule, avec un souci amoureux. Avec un souci amoureux. Donc c'est la dialectique ici de l'homme et de la femme qui intervient de nouveau. C'est pas une affaire uniquement volontariste, même s'il faut de la cèse. Mais le catastrophisme ne va qu'un seul côté des choses. Et voyez, apparaît ici la question de la filiation comme lieu d'expérience fondamentale. Non pas seulement la filiation immédiate ou de quatre générations qui cohabitent sur un même globe, mais au-delà, les enfants de nos enfants, etc., etc. Est-ce que nous sommes concernés par cela? Cette réinterprétation des dialectiques pose la question théologale, qu'est-ce qui sauve au juste l'homme de la violence? Qu'est-ce qui sauve au juste l'homme de la violence? J'introduis ici très brièvement un petit excursus sur trois termes qu'il faut distinguer maintenant, c'est-à-dire eros, donc la pulsion de l'eros, thanatos, nous en avons déjà parlé de cela, à l'opposé d'une certaine manière, ce qui est proprement théologal, l'agapé, qui devient en latin la caritas. Vous voyez, l'eros, c'est au fond cette pulsion s'orientant vers l'autre, lui disant « tu me manques ». Ça, c'est l'eros. Tu me manques. Donc, ce n'est pas l'autre en lui-même, mais c'est l'autre qui me manque. L'agapé, c'est l'autre pour l'autre. C'est l'autre pour l'autre. Dieu laisse pleuvoir sur les justes et les injustes et luire son soleil sur les pécheurs et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Ça, c'est l'agapé. Et il y a un troisième terme absolument magnifique, la philia, l'amitié. Et vous voyez, Saint Jean utilise à la fois agapé et philia. Et donc, je me pose ici de nouveau, si vous voulez, là, ça c'est vraiment une conviction très ferme. Vous avez remarqué ça, que je me suis opposé à la théorie de la substitution. Et je m'oppose aussi, c'est au même titre, à l'opposition entre l'éros et l'agapé. Il y a continuité, même s'il y a discontinuité entre les deux. Et donc l'agapé ne vient pas seulement de l'extérieur, de Dieu, mais elle est déjà cachée dans l'être humain lui-même. Il n'y a pas d'agapé sans un, en bas de la page 110, sans un minimum d'éros. Entre éros et agapé, on trouve la philia, l'amitié. Qu'est-ce que c'est l'agapé? Donc, je tente de la reformuler. C'est la dilatation à l'infini, tous les termes comptent, de l'éros humain en instance de conversion. En instance de conversion. Et ça se trouve déjà, si vous voulez, dans la dialectique de l'homme et de la femme, cette instance de conversion. L'autre, l'altérité. Entre la violence humaine et l'agapé se situe donc de nouveau la dialectique homme-femme, véritable lieu de conversion, d'inversion de toute la vie en société. Alors, regardons brièvement, et je termine la troisième étape par là, l'enjeu théologique de cette thèse. Vous voyez, on est en train de renouer ici beaucoup de fils. Je suis revenu là aux théories, au modèle de la rédemption, le modèle de substitution. Je l'avais sauvé aussi en partie. Donc, les conséquences théologiques de ce que je viens de dire. L'enjeu de l'itinéraire de conversion que je viens d'exposer, est d'atteindre la source de la vie humaine. La source de la vie humaine. Qu'est-ce que c'est cette source, finalement? C'est l'éros en conversion. La dilatation à l'infini de l'éros humain en instance de conversion. La source. Voici ce qu'on dit Gaudium et Spes à la fin de son avant-propos. Donc je vous ai déjà cité ce texte magnifique. Voilà pourquoi, en proclamant la très noble vocation de l'homme et en affirmant qu'un germe divin, voilà, on peut comprendre maintenant au point où nous sommes, un germe divin est déposé en lui, ce saint synode offre au genre humain la collaboration sincère de l'Église pour l'instauration d'une fraternité universelle qui réponde à cette vocation. Quel est ce germe divin déposé en l'homme? Le texte ne le dit pas, Mais l'écriture et notre parcours a essayé de donner, de l'interpréter, donner sens à ce terme. Donc c'est la relation de l'homme et de la femme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cette trace de Dieu dans l'être humain, le germe divin peut être donc compris comme l'éros en instance de conversion en agapé, comme la racine la plus fondamentale de l'être humain, l'endroit, je reviens à la béance, où le pulsionnel et le relationnel se croisent, sont en unité dans le corps humain, lieu fragile, voire dangereux, mais en même temps lieu du plus grand bonheur et du salut. La conséquence théologique, donc, dans la structure corps-âme, je reviens tout à fait à mon point de départ de ce chapitre, dans la structure corps-âme, on risque de définir le salut du Christ comme venant exclusivement de l'extérieur, vers un être humain perverti par le péché. Oui, le salut et le bonheur viennent d'ailleurs, sous forme de surprise, et l'homme est pécheur, mais le salut consiste à libérer la source de vie déposée par le Créateur en l'homme. Voilà. Et voyez, ça c'est le seuil, le passage des synoptiques d'un côté, de Paul de l'autre côté, vers la théologie johannique. Quand vous regardez la théologie johannique, notamment le chapitre 4, voilà, de la Samaritaine, qui vous parle de toutes les relations, voyez, ce qui nous est communiqué, c'est pas de l'eau seulement, mais la source. Mais la source. Quand c'est de l'eau, il faut toujours de nouveau revenir et quêter de l'eau. Mais la source, jaillissant en vie éternelle, en vous, au cœur du jeu relationnel. Voilà. Donc c'est Jean 4. Et donc, on retrouve ici la symbolisation de cette relation christique avec la primauté du lien dans le texte. Primauté du lien symbolisée par la relation entre les états de vie et différents types de relations. Je l'ajoute toujours maintenant. Le salut se trouve entre les états et types de relations. Sur ce chemin de crête dont j'ai parlé. Alors, quatrième et dernière étape de l'expérience. L'institutionnalisation. Parce qu'il n'y a pas de vie sans institutionnalisation. Elle est absolument nécessaire et décisive. Elle n'est évidemment pas tout, bien sûr. C'est le résultat d'une poétique du sens, d'une créativité du sens. Elle est décisive. Mais ce qui vient d'être dit de l'accès à la source de vie et de salut nous libère aussi de la fixation sur un unique modèle ou style, tel que c'était le cas dans les sociétés holistes, évidemment. Voyez, nous sommes dans des sociétés différenciées, j'ai longuement développé ça. L'accès à la source de vie libère la créativité humaine. Et la capacité d'institutionnalisation. Donc on retrouve ici tout ce que j'ai pu dire sur la poétique de sens. Et donc, au fond, cette différence que j'avais développée à la page 101, entre d'un côté une éthique de conformité, hein, c'était une manière aussi de comprendre l'obéissance dans l'Église et dans nos sociétés, être conforme à un modèle, et de manière la plus littérale possible. Voilà. Ou l'inventivité aussi, à ce niveau-là. Mais cette capacité, vous voyez, qui est exigeante, extrêmement exigeante d'un point de vue spirituel, et sans doute au seuil où nous sommes dans l'humanité, implique plusieurs choses. Elle implique d'abord la capacité responsable d'enregistrer les leçons de la vie. Ça, c'est la responsabilité. La créativité enregistre, si vous voulez, ce qui tient et ce qui ne tient pas. aussi ce qui ne tient pas. Il y a des choses qui ne tiennent pas dans l'existence. La capacité d'enregistrer. Et en même temps, la confiance que la vie se charge de montrer, souvent à travers de longues expérimentations, ce qui est viable ou non. Des tests, j'appelle ça des tests de viabilité, et qui sont des tests collectifs dans nos sociétés, parfois à travers des étapes longues, et dans nos existences humaines, évidemment aussi, par moments, on a ces passages où on teste. Est-ce que c'est possible, viable pour moi? Dans la vie des chartreux, c'est long, hein, parfois, très très long, jusqu'à ce qu'on peut dire, bon, voilà, ça y est. Je donne un exemple extrême, voilà. Donc cette confiance responsable est donc éthique dans la vie et sa capacité, la vie a une capacité à nous répondre. Et c'est là où il faut peut-être justement sauver l'essentiel de ce que dans une toute autre culture, une autre théologie, voulait dire la loi naturelle. La fonction de la loi naturelle était, si vous voulez, d'un côté une universalisation, mais elle voulait dire aussi que la vie résiste. Et tout n'est pas possible. Voyez ce qu'on peut appeler la structure sapientielle de la création. Le germe divin déposé en nous, ce n'est pas uniquement l'éros en instance de conversion, homme et femme il les créa, mais c'est la sagesse inscrite dans l'ensemble de la vie. Et donc la capacité au fond de la vie de répondre. Et maintenant, c'est le cosmos, notre globe qui est en train de souffrir et de répondre et de réagir. Si vous, les êtres humains, vous ne réagissez pas, je vous montre ce qui n'est pas viable. Voilà. On est à cet endroit-là. Vous voyez, la loi naturelle, c'était très intelligent, c'était dans une autre culture une manière de dire cela. Voilà, ça c'est extrêmement important. La création tient, elle ne recèle non seulement la source du salut décelée par le Christ, elle a en quelque sorte du répondant. Voilà ma formule, permettant à l'homme de tirer des leçons de ce qu'il éprouve comme viable ou non, et de trier parmi ses multiples tentatives d'institutionnalisation. Donc il ne s'agit pas ici d'introduire dans le raisonnement théologique la colère de Dieu. Voilà. Mais, peut-être faut-il maintenir que cela que l'Écriture désigne en parlant de la colère se manifeste quand telle personne, telle culture ou l'humanité tout entière se montre, et j'ajoute, durablement incapable d'enregistrer de manière responsable les leçons de la vie et de la création. Paul le comprend de cette manière-là dans le chapitre 2 de l'Épître aux Romains. Évitons absolument de parler de la colère de Dieu. Mais Dieu laisse sa création à avoir du répondant. Voilà. Alors c'est devenu infiniment complexe aujourd'hui. Vous voyez, on pourrait dire, le problème écologique, c'est pendant 5 générations. Donc ça ne nous concerne pas. C'est donc les leçons de la vie, c'est pas uniquement à court terme, mais à moyen et à long terme. C'est ça qui les rend plus complexes. Mais l'individualisme ici, c'est la plus mauvaise réaction. Voilà. Donc la colère, c'est ça, il y a du répondant. Et la création a du répondant. Et on le voit maintenant. Et les sociétés ont du répondant aussi. Donc l'institutionnalisation ne consiste pas seulement à régler de manière pragmatique telle ou telle situation. Elle veut rendre, ça c'est sa visée, théologale et philosophique, possible la durée. Pourquoi l'institution est-elle nécessaire? Elle veut rendre possible la durée dans l'usure de la vie et donc rendre possible, c'est magnifique, l'accès à l'expérience heureuse de cette fidélité comme expérience paisible, non sans souffrance, de maturité. La maturité. L'institutionnalisation veut rendre possible ce qui nous est si difficile aujourd'hui, la maturité. Parce que le bateau humain reçoit de la quille parce qu'il a pris une fois une direction décisive dans la vie. Il y a des options fondamentales, décisives. Ça ne veut pas dire qu'il y a des ruptures, des échecs, etc. C'est encore autre chose. Mais il y a une maturité et l'institutionnalisation est la promesse d'une maturité. Elle vient plus particulièrement trois endroits dans ce qui fait la durée fondamentale, c'est-à-dire la suite des générations. La lisibilité de la filiation avec la question écologique. Première institutionnalisation. Se rendre aujourd'hui sensible au parallélisme entre la question de la transmission de la vie et la filiation d'un côté et le souci de maintenir avec un souci amoureux le globe habitable pour les générations futures de l'autre. Donc voilà, ça c'est le versant écologique de l'institutionnalisation. Comme il ne peut pas exister un droit à l'enfant, j'ai fortement dit la dernière fois, je vous renvoie à la page 101, Irène Théry et le principe qu'elle avait évoqué, à juste titre, il y a à réfléchir comment institutionnaliser le droit des générations futures à hériter d'un globe habitable. L'institutionnalisation, dernière réserve de nos modes de vie, est nécessaire, mais ne peut garantir l'accès à la source de vie et à l'expérience de la durée bienheureuse, fidélité, qui relève toujours d'une conversion et d'une découverte théologale. On fait la pause. Alors, je prends maintenant l'autre versant. Accueillir l'expérience du salut dans le jeu multiforme de la communication humaine. Donc, ce versant était évidemment présent à travers la question de la violence, mais il faut l'expliciter maintenant un tout petit peu. Donc, c'est la question d'une pluralité d'interprétations du donné fondamental de l'existence humaine dans la biosphère, cette béance dont j'ai parlé. Alors, à quel niveau, c'est peut-être la première question à laquelle il faut s'attarder quelques instants, à quel niveau les chrétiens et l'Église peuvent-ils se situer dans ce jeu multiforme pour accueillir le salut du Christ ? Alors, je pose ici une alternative, qui est évidemment une fausse alternative. Se situer d'emblée à la hauteur des différentes visions du monde ou attitudes fondamentales. Donc, ce que j'avais développé à la page 104. C'est le risque de l'abstraction. Ou se situer au niveau des styles de vie. Donc, vous voyez cette imbrication que j'ai longuement développé, que les positions paraissent rarement, je dirais, dans leur pureté, elles sont toujours incarnées très concrètement dans des manières de vivre, ou se situer au niveau des styles de vie et des modèles de socialisation. Alors, là vient le point, argumentant d'emblée à partir du modèle unique du mariage monogame et indissoluble. Ce qu'on est tenté de faire, et ce qu'on a fait d'ailleurs, beaucoup. Donc apparaît ici le risque d'entrer en communication par l'exclusion, voire la condamnation. Et je rappelle ici le discours du Baptiste chez Matthieu. Il y a un discours eschatologique, j'ai dit, de type apocalyptique. Alors, l'essence du péché est de rendre aveugle et de se cacher. Donc, Jean 9 nous montre ça. Si on comprend ça, alors il faut tout de suite dire Et si on prend vraiment au sérieux l'axe christologique de la foi chrétienne, nul autre que le Christ, la rencontre avec lui, ne peut guérir l'aveugle et lui faire découvrir avec la vie aussi le péché comme étant pardonné. Donc vous voyez, ça nous avertit à jouer au Christ. L'Église n'est pas le Christ. Jamais la communication avec l'autre non-croyant ne peut donc commencer par l'accusation ou par l'exclusion. Parce qu'au point de départ de l'itinéraire de Jésus, je reviens à toute première partie, premier chapitre de la première partie du cours, vous voyez, c'est cette expérience du Christ, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, ou la magnifique formule de l'épître aux Romains, au chapitre 8, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La communication avec autrui, donc le jeu de communication, ne peut donc commencer sur le plan des divergences entre vision du monde et style de vie, mais à un niveau, je dirais, beaucoup plus immédiat et plus profond, les deux en même temps. Celui que visent les dialectiques, c'est-à-dire finalement la rencontre effective à hauteur de la corporéité concrète des êtres. Alors c'est ça effectivement qui nous est raconté dans les synoptiques. Voyez, je reviens maintenant de Saint Jean aux synoptiques. Vous n'avez jamais des condamnations. Vous avez des rencontres effectives. Infiniment concrète. Voilà le point de départ. Le véritable point de départ. Des lieux où il est question de bonheur et de tristesse, dit Gaudium et Spes. Voilà. Gaudium et Spes, luctus et angor. Voilà. Des lieux effectifs. Où l'accès à la vie est en question. Tous les récits de guérison et de rencontre de Jésus nous montrent ça. Je parlais de la Samaritaine pour continuer chez Saint Jean, la femme adultère, mais aussi 1 Corinthiens 7, qu'on rappelle pas assez dans le débat actuel. Si une femme a un mari incroyant, donc Paul est bien conscient de la parole, de l'appel de Jésus. Si une femme a un mari incroyant et qu'il consent à vivre avec elle, qu'elle ne le répudie pas, car le mari non-croyant est sanctifié par sa femme, et alors magnifique symétrie, et la femme chrétienne, non, là je me suis trompé, car le mari non-croyant est sanctifié par sa femme, et la femme croyante est sanctifiée par son mari. Ah oui, tout à fait, bien sûr, non-croyante, oui, tout à fait, je ne me suis pas trompé. Donc l'inversion, voilà. Bien sûr. C'est ici que doit, si vous voulez, s'ajouter dans la communication à la capacité éthique. Voyez dans la page 111-112, j'ai parlé de la capacité responsable dont j'ai registré les leçons de la vie et la confiance que la vie se charge de réagir. Voyez. Donc ça, c'est la capacité éthique d'engendrer les leçons de la vie, et doit s'ajouter ici, c'est là où on rejoint dans la communication le salut, une capacité proprement théologale d'empathie et de sympathie et de compassion active. La règle d'or accomplie. La capacité, je reviens ici à ma formule de la fin de la première partie du cours, la capacité paradoxale de se mettre à la place d'autrui sans quitter jamais sa propre place. Capacité engendrée par une mémoire vive, formule vous connaissez déjà du Deutéronome, qu'un jour un autre est venu, Dieu lui-même est venu, se mettre à ma place, s'identifier à moi, me rendre capable de faire de même. Voilà, donc ça c'est le côté vrai du modèle de substitution. Encore une fois, je renvoie au chapitre 6 de la première partie. Donc il y a dans l'expérience du salut, au sein même de la communication, il y a le versant éthique et le versant proprement théologal qui émerge ici. La contemplation de la figure de Jésus avec la crise galiléenne et la détermination d'aller à Jérusalem et de prendre sur soi la croix se révèle sa capacité, reçue dans l'intimité de sa relation à son Père, de s'identifier à l'autre et de s'exposer même à la violence, donc de dominer jusqu'au cœur de l'ennemi. Cette contemplation fait découvrir tout ce qui est impliqué dans l'inversion de la dialectique du maître et de l'esclave et celle de l'homme et de la femme, et à quelle extrémité cette inversion peut être conduite pour arriver au bout de la violence humaine. Voilà. Donc, la compassion et la sympathie active, c'est ça le Christ, se mettre à la place d'autrui sans jamais quitter sa propre place. C'est seulement quand la communication humaine atteint cette source de la vie que, alors, vous voyez, je passe maintenant à un deuxième niveau. Ce qui est dit dans le premier niveau, c'est toujours infiniment concret ici et maintenant. C'est seulement alors que les questions de style de vie, de leur socialisation et de vision du monde peuvent être abordées. Et donc, c'est là où intervient concrètement ce qui a été dit sur une éthique de responsabilité et d'institutionnalisation. Et je pense que le chrétien ne peut jamais présumer qu'il soit le seul à atteindre la source du bonheur. Vous avez à la page 81 de votre dossier cette célèbre formule que j'avais commentée à l'époque de Gaudium et Spes 22, paragraphe 5. Qui est la thèse au fond de Vatican II. Donc vous le trouvez au milieu de la page 81. Cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ. Vous voyez, l'accès à la source de vie, au salut. Mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, donc c'est le non-savoir humain ici, la possibilité d'être associé au mystère du Christ. Donc voyez, nous ne pouvons jamais présumer de l'autre qu'il soit en dehors ou dans la sphère de la grâce du Christ. Donc, dans l'esprit de cette formule, nous pouvons dire, je dirais paisiblement, que tout être humain peut accéder à cette source du bonheur comme source du salut, à condition qu'il entre dans le processus le plus élémentaire de la conversion indiqué par les dialectiques, l'éros en instance de conversion. C'est là le lieu. Et la capacité d'enregistrer dans sa société telle qu'elle est, dans son histoire, les leçons, vous voyez, de la vie. La dureté du cœur, c'est l'entêtement. C'est l'incapacité d'enregistrer les leçons de la vie. Après la sortie de la chrétienté, il n'est donc plus possible d'indiquer d'emblée ce qui est viable ou non. C'est ça le problème pour l'Église. Elle a dit pendant toute une époque, elle s'est dit experte en humanité, mater et magistra. Elle l'est, elle reste, mais elle est obligée de s'inscrire dans l'expérimentation. Le Concile le dit d'ailleurs, la recherche de la vérité. La recherche de ce qui est viable. Donc les chrétiens abordent cette situation avec d'autres dans une éthique de responsabilité, donc je redis de nouveau là, le même point, ils la vivent en mettant en même temps et discrètement en œuvre leur capacité théologale de compassion et de sympathie quand eux-mêmes et l'autre arrivent à l'impasse où il devient difficile de tirer des leçons, de ce qui est éprouvé comme viable ou non. C'est là le lieu des chrétiens. Et bon, le pape François est en train de le rappeler avec grande force, avec grande force. Alors, je termine, si vous voulez, je dirais tout ce chapitre avant de brève conclusion, en revenant à la parabole du jugement dernier, qui se situe exactement à cet endroit, ici. Matthieu 25, 31, 36. Alors bon, je ne vais pas vous proposer une lecture détaillée de ce texte, je vous invite à le relire, même s'il est très connu, évidemment. Donc, le texte situe le lecteur dans le présent. Parfois, on parle aussi de la parabole du jugement. Il situe le lecteur au présent et renvoie à partir du jugement dernier, donc anticipation, sorte de fiction, aux choses cachées depuis la fondation du monde. Donc vous avez ici tout l'axe, le présent, le jugement ultime et le retour aux choses cachées depuis la fondation du monde, c'est-à-dire le royaume préparé pour vous depuis ou dans la fondation du monde. Alors qu'est-ce que c'est le royaume? C'est cette source dont on vient de parler. Caché dans la création, au cœur même de la création, la source de vie. Source définitivement décelée par le Christ. Alors là, je prends les formules de Matthieu, de la règle d'or, en se mettant à la place, non pas d'abord des bien portants et des riches, mais en s'identifiant à ses préférés, ceux qui ont faim, soif, les étrangers, etc., tous ceux qui ont été pris dans le jeu de la vie, devenant incapables de s'en tirer. Voilà. Donc cette longue expérimentation, qu'est-ce qui est viable ou non? Il y a ces hommes et ces femmes, ces groupes infinis, d'une certaine manière, des laissés pour compte, voilà. Ce n'est pas leur style de vie qui compte, ni leur vision de l'homme, mais dans le texte, leur corporéité immédiate de sujet. Pas de nourriture, pas de vêtements, en prison, malade, etc. Alors vient ici la surprise évangélique, voyez, j'utilise le terme anthropologique, ce qui est proprement théologal, surprise qui est le secret de la communication des chrétiens avec autrui, me semble. Il est là, dans le jeu communicationnel. Surprise qui vient du fait que ni les brebis à sa gauche, ni les brebis à sa droite ont reconnu le Christ. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tous, ceux de sa droite, de sa gauche, posent la même question. Vous voyez, l'anonymat du Christ, le Christ caché. Incognito, comme disait Kierkegaard. Incognito. Cette surprise renferme une leçon puissante attirée par le lecteur. Ce n'est pas sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance du Seigneur que nous serons jugés. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Mais sur la gratuité de notre intérêt pour autrui. L'unique critère, la gratuité de notre intérêt pour autrui, voilà, l'unique critère. Et ça, évidemment, ici et maintenant, mais aussi dans le temps, je dis, on peut introduire ici la gratuité de notre intérêt pour la vie des générations futures sur notre globe, évidemment. Voilà, c'est ça qui compte, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Donc, l'acte de foi des chrétiens, nous croyons que le Seigneur ouvre à tout homme définitivement la source du salut. Définitivement. Il est Seigneur, voilà, pour cela. Mais nous ne savons comment. Gaudium et Spes 22, ce qui est à notre disposition, devenir chrétien, pas dire que nous le sommes, uniquement devenir chrétien et nous mettre à l'école du Seigneur. Voilà, finalement. Alors, j'espère avoir tenu le contrat, je dirais, que j'ai engagé un peu au début de cette deuxième partie, hein, avec le titre « L'homme créé à l'image de Dieu, radicalement marqué par la fragilité et le péché, mais sauvé par le Christ ». Et le sous-titre de cette partie était « Comprendre la structure de l'expérience du salut dans le cadre de l'anthropologie contemporaine ». Donc, pas dans une anthropologie du corps et de l'âme, mais dans une anthropologie contemporaine. Donc, j'espère notamment aujourd'hui, en reprenant un peu l'ensemble, j'ai dit, du parcours, d'avoir un peu tenu ce contrat-là. Et où le problème principal à résoudre est quand même la diversité des poétiques de sens. Musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, agnostiques, etc., etc., etc. Dans un nouveau type de société qui est en train de naître. Qui est en train de naître, difficilement. Des gémissements d'enfantement, dirait Paul. La solution apportée, annoncée dès le début, et je répète ma formule, déjà annoncée au début de cette partie, mais je pense, j'espère qu'elle a trouvé du sens maintenant. On peut devenir heureux et pleinement humain. Ne séparons jamais les deux, n'est-ce pas, hein? Heureux et pleinement humain, sans être chrétien. Et donc je veux dire par là que le vocable biblique du salut est destiné à tous, même le mot. Le mot salut, c'est un mot humain, pas d'abord un mot proprement religieux. Or, nous les chrétiens, croyons que ce salut, le bonheur qui rend pleinement humain, vient pour tout homme de Jésus-Christ. Quelle que soit sa conscience explicite ou implicite quant à cette source, croire cela, que le bonheur qui rend pleinement humain, bonheur infiniment diversifié selon les hommes et les cultures, vient du Christ Jésus, cela crée une façon de devenir humain tout à fait particulier et singulier. Particulier et singulier. Voilà. Là se situe l'anthropologie chrétienne. Recevoir au jour le jour du Christ, qu'est-ce que c'est cette manière d'être humain? Recevoir au jour le jour du Christ, la grâce baptismale, dans une existence baptismale, la capacité théologale, donc recevoir au jour du Christ, la capacité théologale de se mettre à la place d'autrui, sans jamais quitter sa propre place, identification réalisée intégralement par lui seul. Et c'est ça, son universalité. Voilà, donc au fond je dirais l'essentiel du cours est fait avec ce dernier chapitre où vous avez un peu l'ensemble du parcours, ce à quoi je voulais aboutir. Alors il reste évidemment pas beaucoup de temps, une bonne vingtaine de minutes aujourd'hui et encore une séance lundi prochain. Alors pendant ce temps-là qui reste, écourté, je vous donnerai donc l'essentiel de la troisième partie, en vous disant un peu ce soir de quoi il s'agit. Hein. Mais on ne va pas perdre, je dirais, avec un temps plus court, parce que l'essentiel se trouve écrit, et je vais plutôt commenter, vous guider un peu à travers le polycopier pour que vous repériez vraiment l'essentiel. Je tenais beaucoup à prendre, vu la situation, du temps pour la deuxième partie du cours. Alors, il s'agit maintenant, voyez, de se tourner vers l'accomplissement. L'accomplissement de l'homme dans la force de l'esprit. Entrer dans l'expérience du salut, un itinéraire individuel et collectif. Je rappelle un peu la structure de l'ensemble du cours. La première partie, c'était le deuxième article du credo. Il faut un peu corriger ici. Donc la deuxième partie, pas la première partie. La première partie, si c'est juste, c'est le deuxième article du credo. Pour nous et pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel. Qu'est-ce que c'est cette relation au Christ, relation salvifique? Dans la deuxième partie, il s'agissait de remonter au premier article, donc création. Et maintenant, dans la troisième partie, il s'agit du rapport du deuxième au troisième article. Donc, de tourner le regard de l'actualité vers l'avenir et vers l'accomplissement de l'homme. La vie de l'homme, la vie à venir. Et donc l'Esprit Saint étant précisément la force, la dynamis, comme dit le texte grec, la force d'avenir. On pourrait dire aussi ce que le Concile appelle le germe déposé dans l'être humain, créé hommes et femmes, à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce germe, l'éros en instance de conversion, ce germe, c'est l'Esprit Saint, la force de vie, la dynamisme. Et cette force du pneuma, force de Dieu, a dans la tradition biblique, je dirais, une double et on peut même dire une triple fonction. D'abord une double fonction, c'est-à-dire d'abord une fonction collective et individuelle. Collective et individuelle. L'esprit, c'est le singularisant par excellence, et c'est l'ecclésialisant par excellence. Plus on devient sujet, singulier au sein même de la vie, plus on devient capable de communication. C'est paradoxal. C'est à cet endroit-là que se trouve la fonction anthropologique du pneuma. On peut rappeler ici la magnifique théorie des charismes chez Paul. Un charisme, c'est une expression charnelle de la grâce. Toujours absolument singularisé, et donc manifestation de la liberté de l'esprit, qui dans nos conditions humaines, 1 Corinthiens 7, distribue librement, voilà, à chacun, sa grâce charnellement, mais c'est une grâce en vue du bien de tous, et on retrouve de nouveau l'insistance proprement chrétienne, les préférés de Dieu. Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent. Voilà, les derniers. Donc l'inversion kénotique à l'intérieur de la théorie de la grâce. Donc vous voyez, je résume ici très rapidement, la force de l'esprit est universalisante ou ecclésialisante. C'est l'esprit créateur qui ne cesse de traverser et de transgresser toutes les frontières et toutes les limites. Il souffle où il veut, et l'esprit est le singularisant par excellence. Alors, dans le premier chapitre du cours, on va plutôt parler de l'universalisant, et dans le deuxième chapitre de cette partie, plutôt du singularisant. Donc, ce sont les titres. Alors, j'ajoute un troisième élément ici. Donc l'universalisant, ecclésialisant, le singularisant. Depuis Origène, je vous donne des noms ici, Grégoire de Nice, Joachim de Flore, Lessing, Hegel, etc. L'esprit est toujours lié à l'histoire de l'humanité. L'esprit permet de désigner le moment présent. Le célèbre discernement des signes des temps. Du moment présent, le kairos. Cette désignation prend évidemment aujourd'hui pourquoi Vatican II lui donne une telle importance. Parce que Vatican II pressent déjà ce qui est arrivé maintenant, c'est-à-dire au fond la fin des grands récits. Vous vous rappelez dans la partie d'introduction, j'en ai parlé. Donc où on pourrait d'une certaine manière tranquillement dans les sociétés holiste, déduire, entre guillemets, demain de ce qui est aujourd'hui. Et nous sommes devant un avenir vide, d'une certaine manière. Et du coup, la fonction de l'esprit dans cette énorme leçon dans laquelle nous sommes, vous voyez, de l'apprentissage de l'humanité, les leçons de la vie dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui est viable ou non, la viabilité, la référence à l'esprit est tout à fait décisive pour désigner le moment présent, pour le discerner. Alors, j'en reviens tout de suite, je vous laisse lire la suite, c'est une reprise un peu des quatre modèles, modèles généalogiques, etc., je vous laisse regarder ça. J'en viens donc à la désignation du moment présent. Et donc, intervient ici une notion dans l'ensemble de ce chapitre hein, qui se dégage progressivement à la fois dans nos sociétés mondialisées et dans la théologie comme une notion essentielle. La créativité. La créativité. Donc, vous voyez, quand on est sorti d'une éthique de conformité, quand on est dans un pluriel de possibles, même à l'intérieur des styles de vie, quand tous les styles de vie sont en osmose et communiquent, et chacun est renvoyé à sa capacité personnelle, avec les phénomènes de stress, et les phénomènes de stress de nos sociétés, la question est celle de la créativité avec ses chances et ses risques. Et alors apparaît ici, donc si on en regarde ça un peu d'un point de vue proprement théologique et philosophique, d'un point de vue, dans le paragraphe 3 à la 116, à la page 116, vous avez d'abord, si vous voulez, la triple difficulté de la créativité. Je le rappelle ici. Donc, premièrement, le grand absent de la réflexion sur l'humanisation de la nature par l'activité humaine. La nature elle-même est la dégradation radicale de l'environnement par cette humanisation menaçant désormais l'hominisation. J'en ai déjà longuement parlé de ça. Voyez, ça c'est le premier enjeu, au fond, de la créativité, de notre imagination. Deuxième enjeu, la transformation et même la manipulation technique de l'homme par l'homme. J'en ai aussi longuement parlé dans l'introduction. L'homme augmenté, vous voyez. Toutes les manipulations génétiques, techniques de l'être humain. Et le troisième élément, la pluralité interne de la poétique de sens. Et donc l'énorme risque aujourd'hui, même après une crise qu'on vient de traverser pendant 2-3 jours, voyez, c'est la parcellisation qui est le problème du positivisme. C'est-à-dire, on traite chaque question pour elle-même, mais alors le problème, c'est le lien entre les questions. C'est ça la grande difficulté. Risque d'occulter risque d'un traitement séparé de ces trois difficultés avec une occultation positiviste de la nécessité de donner sens. On vit dans une sorte d'emballement des finalités vu les moyens techniques que nous avons et c'est là où il devient urgent vraiment de traiter mais où est le sens de l'existence humaine finalement. Ça, c'est le versant philosophique. Et si vous voulez, d'un point de vue proprement théologique, je remonte au point numéro 2, revient ici l'idée de la paideia, dont je vous ai parlé longuement avec Augustin et Pélage. Cette idée géniale, au fond, que l'humanité est toujours une humanité à éduquer, qui s'éduque. Et que Dieu, on peut le comprendre aussi comme éducateur, ce que fait le Deutéronome. Alors, nous avons vu, évidemment, dans la deuxième partie, d'une manière plus nette, la distinction entre des sociétés holistes, Pélage et Augustin, c'est dans des sociétés holistes. Alors, aujourd'hui, évidemment, cette éducation devient beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. Et comment comprendre finalement, je dirais, l'éducation de l'humanité par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Ce qu'on appelle le dessein de Dieu. Alors ça, c'est la problématique. C'est donc le premier point, la problématique à la fois philosophique et théologique de la créativité humaine. Alors si on regarde à partir de cela, Le paysage contemporain de l'anthropologie théologique, voyez, un peu dans un regard, je dirais, récapitulatif, ce que nous avons fait. Alors le paysage global d'abord, et ensuite deux figures et une troisième. Le paysage global. Je vais vous lire ces deux paragraphes, sont 16-17. On peut situer ce paysage entre deux massifs. D'un côté, la montée de plus en plus puissante d'une société libérale et démocratique, soumise à l'emballement de son système financier, société qui passe par des phases importantes de crise et de transformation, l'emballement du système financier, c'est aussi l'emballement des finalités de la société, évidemment. Consommer pour produire, produire pour consommer, etc. Ce cycle dans lequel nous sommes. Et de l'autre côté, tout ce qui se présente comme retombée et effet pervers de cette construction historique de l'humanité et se cristallise dans des oppositions et des résistances. C'est peut-être ça qui est le plus émouvant, qu'on n'a pas uniquement un système libéral qui devient de plus en plus puissant, mais on a aussi des résistances. Donc la capacité de l'être humain de résister. Depuis l'émergence des mouvements ouvriers et de l'utopie marxiste qui formeront à partir de 1907 dans les pays de l'Est, 17 je voulais dire ici, pardon, donc la révolution russe, dans les pays de l'Est et ailleurs un deuxième massif effondré en 89, j'évoque ça, il y a les deux massifs. Au fond, les gens de ma génération ont vécu avec ces deux massifs. D'un côté, le libéralisme occidental, la démocratie, le mur, et de l'autre côté, l'autre massif. Donc, une résistance qui devient massive. Donc, depuis l'émergence des mouvements ouvriers, de l'utopie marxiste, des mouvements de libération contre la colonisation occidentale, au mouvement qui attire l'attention sur les problèmes causés par une démographie galopante, par l'épuisement des énergies fossiles et par le désastre écologique. Et maintenant, il faut rajouter, évidemment, depuis le 11 septembre 2001 et le 7 et 11 janvier 2015, évidemment, toutes les questions religieuses qui se situent à cet endroit-là. Ça, c'est le paysage global, anthropologique, dans lequel nous sommes. Alors, la théologie, elle n'est pas restée dans son université, mais depuis le 19e siècle déjà, elle a tenté de désigner le moment présent. Donc, vous voyez, cette fonction de l'Esprit-Saint qui consiste à dire, mais comment comprendre finalement l'évolution de l'humanité dans laquelle nous sommes, l'évolution de l'humanité. Et elle a fait ça selon deux traditions en opposition. D'un côté, elle a activé la tradition apocalyptique, jusqu'à la caricature dans le film Apocalypse Now. Voilà, vous vous rappelez de ça. Voilà. Avant la chute du mur. Voilà. Apocalypse Now. La tradition apocalyptique qu'on trouve chez le Baptiste et chez Jésus de Nazareth, ou chez Paul, ce que Paul appelle le gémissement de toute la création. Et donc, en activant cette tradition, au début du XXe siècle, elle s'est tout spontanément, l'anthropologie chrétienne, distribuée selon deux champs. D'un côté, une anthropologie libérale, radicalement anti-apocalyptique, et qui épouse la société libérale. On retrouve là notamment les très grands protestants qui sont derrière, pour une partie, la séparation, la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Une théologie libérale. Et de l'autre côté, du côté du catholicisme surtout, mais pas uniquement, une anthropologie intégrale et utopique, fortement teintée d'apocalyptique, opposée parfois en bloc à la société libérale, surtout en milieu catholique. Et vous voyez, c'est cet intégralisme catholique qui est revenu très récemment dans les débats de la société sur la question du mariage. Voilà. les deux figures. Et il y a une troisième figure, une théologie greffée sur les interrogations autocritiques de nos sociétés modernes en voie d'auto-institutionnalisation continuelle. Bon, moi je m'inscris plutôt ici, le cours s'inscrit plutôt là, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, alors après vient évidemment, je dirais, un nécessaire discernement ici. Là, je vous donne un peu les clés après coup, voilà, de tout le parcours que nous venons de faire, aussi pour vous rendre libre de prendre position vous-même dans ce paysage. La position de Jean-Baptiste Metz, la foi dans l'histoire et la société, elle est précisément dans cette troisième figure. Donc vous voyez, on se greffe, vous voyez, germe divin, Vatican II se situe là aussi pour une partie. On se greffe sur les interrogations que la société a elle-même, et on les oriente dans un certain sens ou dans un autre. Ça, c'est une autre manière de faire de l'anthropologie. Alors, la figure libérale, très brièvement, et ensuite la figure intégraliste. Et ensuite, vous voyez à la page 119, 20 et 21, je tente de comprendre ce que les deux figures ont d'essentiel encore aujourd'hui. Alors la figure libérale, très rapidement, l'apocalyptique est un phénomène de déclin, de contre-société, et il faut comprendre le christianisme de manière non apocalyptique. Alors, qu'est-ce que c'est comprendre le christianisme de manière non apocalyptique, donc le numéro 2, c'est-à-dire de le comprendre dans une perspective prophétique, liée à des grandes personnalités, donc Jérémie, Isaïe, Amos, etc., et finalement l'unicité de Jésus-Christ, de Nazareth. Voilà. Et avec une prise de distance par rapport à ce qui est toujours un grand refus dans cette thèse, ce qu'on appelle le grand refus, c'est finalement on fait une société alternative dans l'Apocalypse, non. Les libéraux s'inscrivent dans les sociétés telles qu'elles sont. Et donc, passage, alors ça c'est la formule décisive à retenir d'un point de vue théologique, fin du point 3, l'insistance apocalyptique porte sur la fin imminente. La fin imminente. Donc ça, c'est une théologie de la crise. La fin imminente, la théologie apocalyptique. Ça, c'est le baptiste, voilà. Si vous ne vous convertissez pas demain, c'est le catastrophisme. Demain, c'est fini. Voilà. Ou comment dire, si vous vous comportez comme ces gens-là, attention, demain, la tour va tomber sur vous. Fin imminente. Alors le libéralisme pose la question, c'est la finalité immanente à l'histoire. De l'imminente, on passe à l'immanence, finalité immanente. Le libéral vit donc dans deux registres où règnent différents. L'évangile, il le reçoit dans son fort interne, l'accueil de la justice de Dieu, sans cesse à recommencer. Et par ailleurs, dans le domaine social, public et politique, il participe aux mutations de la société par sa créativité, misant sur des finalités immanentes, mais attention, il ne faut jamais les absolutiser. Donc, ces grands protestants de 1905 étaient à la fois pour la laïcité, mais évidemment pour une laïcité désabsolutisée. Ils n'étaient pas laïcars, voilà. Désabsolutisés. Voilà, si vous voulez, la théologie libérale. Et alors maintenant, la figure contre-sociétaire du catholicisme intégral et politique, avec ses variations continuelles, à partir de Léon XIII, jusqu'à Paul VI, pourrait-on dire, avec Gaudium et Spes. Donc l'idée d'une via media, d'une voie médiane, je rappelle si vous voulez les deux massifs, d'un côté le massif libéral et de l'autre côté le massif marxiste-léniniste. Et donc une troisième voie entre les deux. Mais regardez quand même les textes. La première encyclique de Pie X nous éprouvait une sorte de terreur à considérer les conditions funestes de l'humanité à l'heure présente. Oui, c'est vraiment l'apocalypse. Peut-on ignorer la maladie si profonde et si grave qui travaille en ce moment, bien plus que par le passé, la société humaine, et qui s'aggrave de jour en jour et la ronge jusqu'au moelle, l'entraîne à sa ruine. Cette maladie culmine dans une témérité sans nom, vous voyez, c'est tous des citations, quand l'homme moderne usurpe la place du Créateur en s'élevant au-dessus de tous qui portent le nom de Dieu. Qui pèse ces choses a droit à de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés pour la fin des temps. Vous voyez le modèle apocalyptique. Comme leur prise de contact avec la terre et que véritablement le fils de la perdition dont parle l'apôtre ne se trouve déjà parmi nous. Et voyez, vous avez ici une sorte de... Il faut honorer ça. Ça, c'est, je dirais, une mentalité qui existe toujours dans le catholicisme. Mais c'est un mélange de motifs apocalyptiques et de motifs sapientiels. Il y a aussi de la sagesse, vous voyez. Et donc, intervient ici précisément le rapport à la nature. La loi naturelle intervient ici, la connaissance naturelle de Dieu. Qui a une fonction positive, mais une fonction négative aussi, qui reconduit vers l'interprétation apocalyptique de la modernité. Quand le lien de création entre l'homme et Dieu est nié théoriquement ou pratiquement dans l'athéisme et l'agir injuste, voire dans l'idolâtrie sous toutes ses formes, ce lien qui continue à subsister se retourne en quelque sorte et conduit vers l'autodestruction et la décréation. Donc, vous voyez la colère de Dieu. C'est ça, l'idée que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. Et le retournement est imminent, imminent dans ce modèle. Alors, Vatican II, et je vais terminer par là, n'a pas tout à fait abandonné ce modèle, parce qu'il utilise encore le mot intégral. La vocation intégrale. Mais voyez, dans ce modèle apocalyptique, il y a à la fois la référence à l'apocalyptique, donc à l'imminence, et il y a la sagesse derrière qui peut se retourner contre elle-même. Et c'est ça qui explique au fond les balancements qu'on a eus dans le catholicisme. Soit on a accentué beaucoup ce que Jean XXIII appelle les prophètes de malheur dans son discours d'introduction au concile, soit on a davantage accentué le côté sapientiel et ce que va faire Gaudium et Spes. Donc l'enjeu pour désigner le moment d'aujourd'hui, c'est au fond de discerner un peu avec précision le moment présent et de ne pas mettre simplement de côté le modèle libéral ou le modèle apocalyptique. Les deux véhiculent quelque chose de tout à fait nécessaire dans l'anthropologie chrétienne quant au moment présent. Donc voyez, je vais vous résumer ça la prochaine fois très rapidement en consacrant surtout la dernière séance aux trois derniers chapitres et notamment au chapitre 3. Bien, bonne semaine. J'espère qu'elle sera un peu différente que celle que nous venons de passer.